You'll never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositives et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, avec une invitée en plateau, nous parlerons du VIH et cancer. Pour réagir à tout ce que vous entendez, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou à travers notre site internet comitedesfamilles.net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et la version podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Audioblog et YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles si vous avez aimé cette émission. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en plateau Marianne Véry, coordinatrice de la recherche d'oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce que j'ai bien dit ?
Exactement.
Mais vous ne faites pas que ça. Est-ce que je vous laisse un peu vous présenter
Merci. Merci déjà de l'invitation.
Avec plaisir.
Donc, effectivement, je travaille dans le service d'oncologie médicale de la Pitié-Salpêtrière. Je suis chef de projet pour le réseau CancerVie depuis 11 ans maintenant. Et surtout, je coordonne la réunion de concertation pluridisciplinaire nationale qui s'appelle OncoVie et qui est dédiée aux personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer.
D'accord. Quindi, du coup, c'est quoi le but de CancerVie, de ces gens de recherche?
Alors, CancerVie, il a été créé donc en 2014 et il partait du constat que le monde de l'oncologie et le monde du VIH ne communiquaient pas du tout ensemble, que c'était vraiment deux mondes à part et qu'il y avait vraiment un besoin de coordination entre tous ces acteurs pour que la prise en charge soit le plus optimale possible. Parce qu'on avait encore, il y a 10 ans, des personnes vivant avec le VIH qui étaient traitées, par exemple, avec 50% de doses de chimiothérapie par peur du VIH. Donc, il y avait vraiment besoin d'informer les professionnels de santé, que ce soit côté cancérologie ou côté VIH, pour que la prise en charge soit la plus optimale possible. Et donc, on a créé la première réunion de concertation pluridisciplinaire nationale en mai 2014.
D'accord. Et vu que vous commencez par un peu d'histoire, on commence aussi par l'histoire. On a une histoire avec les VIH liés au cancer à partir des Kaposi. Est-ce que vous pouvez nous refaire un peu l'historique jusqu'à arriver à aujourd'hui? Après, on va développer, mais quand on commence à lier le VIH au cancer?
Oui, tout à fait. Alors, les premiers cancers qu'on a vus, c'est ce qu'on appelle les cancers classant sida. Il y en a eu trois. Il y a eu la maladie de Kaposi, bien sûr, le lymphome non-Hodgkinien et un petit peu plus tard, le cancer du col utérin. Ces trois cancers, ils sont liés à des virus. C'était vraiment les cancers qui étaient les plus incidents au début de l'infection VIH. On a vu au fil du temps, grâce à l'amélioration des traitements antirétroviraux, une inversion, en fait, et une diminution de ces cancers donc liés à des virus, avec des cancers qu'on appelle non classants sida, qui ne sont pas tous liés à des virus, mais qui ont pris le pas maintenant et qui sont plus incidents que les cancers classants sida. Alors, cette classification, elle est remise en question hein, maintenant, parce qu'on a des cancers incidents comme le cancer du poumon qui ne sont plus du tout liés à des virus. Donc, maintenant, on sépare plutôt cancer lié au virus et cancer non lié au virus dans la classification. Alors, chez les hommes qui vivent avec le VIH aujourd'hui, donc les cancers les plus incidents, c'est le cancer du colorectal, suivi de la maladie de Kaposi et du cancer de la prostate, puisque la population VIH vieillit aussi, donc va être confrontée de plus en plus au cancer de la personne âgée. Et chez les femmes, maintenant, les cancers les plus incidents, c'est le cancer du sein, qui est le cancer le plus incident en France toute population confondue. On retrouve aussi quelques lymphomes encore non-Hodgkiniens. Donc, ça signifie qu'il faut quand même continuer à bien surveiller la réplication virale, hein, faire en sorte que le VIH soit le plus contrôlé possible.
Mmh. Alors, pour du coup commencer du début, quand on parle des cancers, beaucoup des places est dédiée à la prévention en général. Ça, c'est une population générale. Pour ce qui concerne les VIH, est-ce qu'il y a une prévention qu'il faut faire particulière liée au fait d'avoir le virus?
Oui, tout à fait, puisque c'est vrai que ces cancers sont quand même liés à l'immunodépression. Donc, le facteur de prévention premier, c'est vraiment de contrôler le VIH et d'instaurer le traitement antirétroviral au plus tôt et de le maintenir tout au long de la vie et de faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. On sait que ce qu'on appelle, nous, le Nadir, enfin, ce que vous appelez aussi le Nadir CD4, va jouer vraiment sur la survenue des cancers, notamment liés au virus, et que plus on contrôle cette immunodépression, et moins le risque est important. Les autres facteurs de prévention, hein, c'est les mêmes que dans la population générale, c'est de diminuer les facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, l'exposition au soleil. Voilà, ce sont les mêmes facteurs de prévention.
Mais ce sont les mêmes facteurs de prévention, mais sachant que souvent la population qui vit avec les VIH, une partie de la population qui vit avec les VIH, c'est une population plutôt précaire.
Oui, tout à fait.
Comment on peut, dans cette précarité, donner de la place à la prévention? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont mis en place pour rendre plus simple l'accès à la prévention?
Alors, c'est vrai que le lien avec l'infectiologue, notamment à l'hôpital, c'est souvent le lien numéro un. Et c'est souvent l'infectiologue qui arrive à lever des leviers pour accéder à la prévention, notamment la vaccination HPV, hein, qui est un facteur de prévention essentiel dans la réduction du risque de cancer. C'est vrai que l'infectiologue peut parfois lever des freins à la prévention. Alors, on est d'accord que ça reste difficile d'accéder à ces moyens, notamment, il faut essayer d'accompagner au maximum, par exemple, l'arrêt du tabac. On sait que ce n'est pas facile. Mais voilà, je pense que le lien avec l'infectiologue est peut-être le lien le plus fort et celui qui va peut-être le plus pouvoir agir sur ces facteurs de prévention.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a des signes à ne pas sous-estimer?
Alors, effectivement, tout symptôme qui persiste plusieurs semaines, on entend souvent 3 semaines, tout symptôme doit entraîner une demande de conseil, une consultation quand on peut, bien sûr, tout à fait. Il faut consulter au moindre symptôme qui persiste plusieurs semaines.
Une des choses à surveiller, c'est sûrement le style de vie. Vous en parlez, vous parlez du tabac. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au VIH auquel il faut donner particulièrement attention? C'est-à-dire que peut-être le tabagisme peut avoir une influence plus forte pour une personne qui vit avec le VIH.
Oui, le tabagisme, effectivement, couplé à l'immunodépression, va entraîner un sur-risque de cancer du poumon, par exemple. Et c'est souvent mal connu, mais le tabac est responsable d'un certain nombre d'autres cancers, par exemple le cancer de la vessie, est souvent lié au tabac. Le tabac est le facteur numéro un de l'apparition des cancers de la vessie. Donc effectivement, la réduction du tabac est un des critères numéro un pour diminuer le risque de cancer. Quand on vit avec le VIH, pour diminuer cette immunodépression qui du coup va être encore plus amplifiée quand on fume, effectivement.
Même discours, on peut faire pour l'alcool.
Tout à fait. L'alcool est responsable des cancers, notamment digestifs. Et là, on est dans la même situation, tout à fait.
Du coup, on reste pour l'instant dans un schéma de population générale.
Tout à fait. Ce qui est quand même très rassurant, c'est que quand on a un nadir qui est assez haut et quand on arrive même à prendre son traitement antirétroviral et qu'il est efficace pendant... Alors, on donne souvent le délai de 2 ans. Pendant 2 ans, on a des CD4 qui sont au-dessus de 500. Le risque d'avoir... Le sur-risque d'avoir un cancer par rapport à la population générale, il devient nul, en fait. Le risque est le même. Donc, on sait que le facteur numéro un, c'est la réduction de l'immunodépression, donc le contrôle de la réplication VIH. Oui. Et que si ce contrôle est fait de façon optimale, le sur-risque d'avoir un cancer quand on vit avec le VIH, il devient nul.
Oui. Du coup, pour répéter, si on a une charge virale indétectable, on a le même risque que la population générale d'avoir un
cancer. Quand on a une charge virale indétectable, et surtout quand on a des CD4 qui approchent 500, Le sur-risque, en fait, N'existe plus, le risque est le même que dans la population générale, oui, pour un certain nombre de cancers. Tout
et
à
du
fait.
Coup, ça va être le style de vie, le soin général de la santé, le suivi des recommandations chez l'infectiologue, etc.
Exactement, tout à fait. Alors après, il y a les programmes de dépistage dont on va, je suppose, parler aussi bientôt, qui sont essentiels aussi dans la prise en charge des cancers.
Oui, justement, c'était vraiment la question que je voulais vous poser. Du coup, est-ce qu'il y a des cancers qu'on va dépister systématiquement, qu'on a les VIH, quel genre de programme nous avons en France ?
Alors oui, alors déjà, il ne faut pas oublier les programmes nationaux, puisque comme la population VIH vieillit, elle va se retrouver confrontée aux personnes au cancer de la personne âgée. Donc il faut absolument suivre les programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. Et effectivement, il y a des cancers qu'il faut surveiller un peu de plus près. Les nouvelles recommandations qui ont été émises en 2024 rappellent qu'effectivement, il y a un suivi un peu plus rapproché à faire sur le dépistage des cancers qui sont liés à l'HPV, notamment. Donc, cancer du col de l'utérus et cancer du canal anal. On sait aussi que l'HPV est responsable d'un certain nombre d'autres cancers. Il peut être responsable des cancers de la tête et du cou. Donc, c'est important d'avoir une visite annuelle et d'avoir un examen annuel de la sphère aussi ORL, de la bouche. Bien regarder la bouche, la langue, voilà, que ça soit fait par un professionnel, c'est très important aussi. Et on a quand même un petit point de vigilance, c'est que la maladie de Kaposi a vraiment diminué en termes d'incidence depuis le début de l'infection VIH, mais on revoit là une résurgence de quelques cas de maladie de Kaposi qui sont ce qu'on appelle des localisations viscérales. Donc, ce n'est pas des lésions cutanées. Donc, on a des lésions viscérales et chez des patients qui sont contrôlés depuis très, très longtemps, parfois 30 ans. Hein. Donc, c'est important aussi de faire un examen complet cutané une fois par an pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions de Kaposi. Donc, nous, ce qu'on préconise, parce qu'évidemment, ça peut être un petit peu... ça peut faire peur, hein, tout ça. C'est en gros une seule visite annuel et l'infectiologue réalise, si possible, l'intégralité du contrôle cutané et de la bouche.
Ok. Et quand vous parlez du coup de dépistage systématique, on peut dire que tous ces genres de dépistage sont gratuits.
Oui, les dépistages nationaux sont gratuits. Effectivement, certains dépistages, les dépistages qui sont recommandés et qui sont validés pour les personnes vivant avec le VIH sont gratuits. Quand ils sont réalisés à l'hôpital, ils sont gratuits. Donc oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a un calendrier qui est un petit peu plus rapproché pour le cancer du col de l'utérus et le cancer du canal anal, mais quand ils sont réalisés à l'hôpital, ils sont gratuits.
D'accord. Est-ce qu'il y a, on peut parler de organes qui sont visés plus que d'autres ?
Alors, pas forcément, mais c'est vrai qu'on sait que le cancer du poumon qui n'est pas lié à un virus, et c'est un des rares cancers qui a un risque assez important dans la population VIH, on sait que c'est lié à l'immunodépression. Et on sait que l'inflammation au niveau pulmonaire peut être un facteur aggravant. Effectivement, au niveau pulmonaire, il faut surveiller. Et c'est vrai que c'est un des rares cancers pour lesquels on n'a pas retrouvé de virus qui pourrait être activé ou en tout cas qui pourrait agir grâce à l'action du VIH.
D'accord. Et si on parle maintenant du suivi d'une personne qui vit avec un cancer, est-ce que du coup, il y a des traitements spécifiques pour les personnes qui vivent avec les VIH ?
Alors, l'idée, c'est de traiter une personne qui vit avec le VIH comme une personne de la population générale, de lui donner le traitement du cancer le plus optimal possible. Donc, en fait, souvent, ce n'est pas sur le traitement anticancéreux qu'on va jouer, c'est sur le traitement antirétroviral. Parce que, bon, il peut exister effectivement ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses entre les molécules de chimiothérapie, par exemple, ou les traitements antirétroviraux. Mais au maximum, on va essayer de traiter de façon la plus optimale possible le cancer, en priorité. Et on va changer le traitement antirétroviral pour s'adapter. Et donc là, c'est tout le rôle de nos pharmacologues. Et on a une équipe de pharmacologues qui travaille avec nous et qui est spécialisée donc dans cette adaptation des traitements antirétroviraux pour que les traitements anticancéreux se passent le mieux possible.
Mmh. J'imagine, du coup, dans cette recherche, c'est très important le rôle de la recherche biomédicale.
Tout à fait.
Des patients qui décident d'adhérer à des programmes de recherche.
Oui, et là, c'est vrai qu'on commence à avoir des bonnes nouvelles parce que sur les 10 dernières années, les grands essais internationaux qui valident les nouveaux traitements dans le cancer, ces essais-là excluaient de façon systématique les personnes vivant avec le VIH, avec la peur qu'il y ait un effet peut-être sur la charge virale, sur le réservoir. Et on a montré, grâce à des études spécifiques dans cette population VIH, que non, il n'y avait aucun souci, qu'il suffisait justement d'anticiper ces interactions et de modifier le traitement antirétroviral pour que tout se passe très, très bien. Donc, on a des cohortes, notamment, qu'on a réalisées avec l'ANRS en France pour les nouveaux traitements, parce qu'il n'y a pas que la chimiothérapie, il y a aussi d'autres traitements innovants comme ce qu'on appelle l'immunothérapie. On a prouvé qu'il n'y avait aucun souci. Et de plus en plus, on voit les essais industriels internationaux s'ouvrir à la population VIH. Et donc, c'est très rassurant puisqu'ils participent enfin à la recherche. Et bien sûr, de notre côté, on essaye aussi d'avancer sur justement en utilisant ces traitements d'immunothérapie. Donc ces traitements d'immunothérapie sont là pour redonner le pouvoir à notre système immunitaire de combattre lui-même les cellules tumorales. Et donc là, on fait des essais spécifiques parce qu'on espère peut-être avoir un effet sur les deux. Avoir un essai sur le cancer et pourquoi pas un essai sur le réservoir VIH avec une idée bien sûr d'HIV cure. Alors bien pas à court terme, bien sûr, mais peut-être en mettant plusieurs traitements ensemble, voilà, à moyen terme. Donc ça, c'est les traitements qu'on lance aussi, qu'on essaie de lancer en France, notamment pour cette population effectivement spécifique, mais qui a besoin, qui a plus que besoin qu'on avance avec elle dans la recherche, bien sûr.
Pour bien expliquer à nos auditeurs, peut-être, parce que là, on a dit pas mal
c'est des termes effectivement compliqués.
Exactement, qui ne sont pas forcément compréhensibles par tout le monde. Vous avez parlé des HIV cure, du coup, de la recherche pour la fin du VIH.
Tout à fait.
Et du coup, il y a des recherches qui sont liées à la cancérologie.
Tout à fait, effectivement. Parce qu'en fait, les traitements qu'on utilise actuellement en cancérologie peuvent avoir des effets aussi dans l'immunité anti-infectieuse. Et donc, on espère que peut-être en couplant différentes molécules d'immunothérapie, on pourra avoir un effet à la fois sur le cancer, mais aussi, pourquoi pas, sur le réservoir VIH et réussir à éradiquer complètement le réservoir VIH. Donc, c'est vrai que c'est des essais qui vont démarrer, sur lesquels on attend beaucoup. On a déjà eu quelques données préliminaires qui étaient assez prometteuses, mais qui ont vraiment besoin, là, qu'on monte des études spécifiques. Mais effectivement, ces molécules d'immunothérapie, elles sont vraiment intéressantes parce que c'est vraiment notre système immunitaire qui reprend le pouvoir sur les virus, les cellules tumorales. Et notre système immunitaire est là pour ça. Évidemment, le VIH, comme les cellules tumorales, ont trouvé des moyens de déjouer le système immunitaire. Mais là, on espère qu'il puisse retrouver son rôle premier.
Oui, comme redonner les chances au système immunitaire de lutter contre ce genre d'attaque.
Exactement, c'est ça. Oui.
Et vous avez parlé tout à l'heure d'une ouverture justement très importante des personnes qui vivent avec les VIH dans la recherche.
Tout à fait.
Et du coup, on peut tester mieux les traitements, etc. Maintenant, peut-être pour les futurs, mais ça va au-delà du VIH cancer, c'est aussi essayer d'inclure le plus possible les personnes les plus variées, je veux dire des femmes, des personnes plus précaires, et souvent ils sont exclus recherche.
Alors déjà, les femmes de manière générale sont beaucoup moins incluses dans les essais cliniques en cancérologie, donc elles vivent avec le VIH ou pas. Et on sait que c'est un souci puisque la population féminine est quand même sous-représentée, ce qui peut poser quelques soucis, notamment d'adaptation de dose. Et de plus en plus, en cancérologie, on essaye d'inclure des femmes dans les essais cliniques. Et effectivement, les femmes qui vivent avec le VIH sont encore plus sous-représentées dans les essais cliniques. Donc nous, à la Pitié-Salpêtrière, on est vraiment un centre de référence. On essaye justement de veiller à ça, de leur proposer dès que possible une inclusion dans un essai. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident.
Oui. Et dans votre réseau national Cancer Vie, on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé du HIV cure. Du coup, ça, c'est, j'imagine, un enjeu de grande portée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous font, sur lesquelles vous travaillez en ce moment, qui pourraient ouvrir des portes, des chemins pas battus jusque-là?
Alors, bon, on travaille sur tous les aspects hein, de la prise en charge. Hein. On travaille de la prévention au dépistage. Bien sûr, on a énormément, par exemple, d'interrogations sur la vaccination HPV. Je pense comme vous, voilà, on s'interroge beaucoup sur quel âge, jusqu'à quel âge il faut vacciner. On s'interroge sur le dépistage, bien sûr, pour l'adapter au mieux, qu'il soit le plus facile aussi à suivre sur la prise en charge. Là, la prise en charge, on atteint quand même un état où cette différence entre les personnes qui vivent avec le VIH et la population générale, en fait, elles s'effacent. Donc ça, c'est plutôt très, très positif. Et là, nous, on a envie d'avancer plutôt sur les traitements innovants. Donc, on peut parler, par exemple, des CAR-T-cells. Donc, les CAR-T-cells, c'est toujours l'immunothérapie. Ce sont nos cellules immunitaires qui vont être armées pour reconnaître des cellules tumorales. Donc, on a réussi en France à traiter une vingtaine de personnes qui vivent avec le VIH. Donc, ça aussi, c'est un traitement d'avenir. Donc là, on travaille plutôt sur les traitements innovants dans cette population pour essayer d'aller le plus loin possible et diminuer ce sur-risque qui persiste encore, mais qui finalement s'efface au fil des années.
Et de votre point de vue, sont lesquels les obstacles plus importants à abattre pour que cette recherche avance bien? Est-ce qu'ils sont plutôt de nature politique, économique ou vraiment factuelle de recherche en soi?
Alors, économique, je ne pense pas, mais c'est plutôt encore une peur qui réside, qui persiste effectivement au niveau des industriels. D'une interaction possible, d'un réveil du VIH s'ils utilisent tel ou tel médicament. Et souvent, quand on regarde les données des essais, il n'y a aucun rationnel, hein, bien sûr, puisqu'on a tellement de données maintenant très rassurantes. On sait que la population, les personnes qui vivent avec le VIH peuvent finalement recevoir l'intégralité de tous les traitements. Il suffit de prendre quelques précautions à l'avance, d'anticiper les interactions. Et tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il reste ce vieux message au niveau industriel de... en fait, ils ne se posent même pas la question. Hein. Ils excluent les personnes vivant avec le VIH sans vraiment s'interroger sur le pourquoi. Donc là, maintenant, surtout que la FDA a émis une note en 2022 pour rappeler que les personnes vivant avec le VIH peuvent être incluses dans tous les essais cliniques. Donc maintenant, ça commence à se gommer.
Mais ce blocage des industriels, il ne peut pas venir juste pour des raisons économiques et privées, leur business, en fait.
Peut-être, bien sûr. Oui, oui.
Oui. D'accord. Écoutez, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, avant de se saluer, nous dire à nos auditeurs des choses importantes, soit que ça concerne la prévention, soit un message d'espoir
C'est vraiment un message d'espoir parce que on sait que quand on est atteint par un cancer, lorsqu'on vit avec le VIH, c'est effectivement difficile, hein, c'est une double prise en charge. Parfois, en plus, avec des médecins qui ne communiquent pas forcément. Mais là, on est vraiment dans une ère où il y a beaucoup plus de collaboration, il y a une meilleure prise en charge, il y a un dépistage qui est quand même plus important, qui fait maintenant on dépiste les cancers plus tôt, donc ils sont mieux traités. Et la population VIH, maintenant, elle a accès à pratiquement l'intégralité de tous les traitements. Donc, on pense vraiment que de plus en plus, la prise en charge va être optimale. Donc ça, c'est vraiment le message numéro un. C'est un message d'espoir, hein, effectivement. Il y aura de moins en moins de différences de traitement. Donc ça, je pense que c'est le message à retenir. Il faut effectivement passer par les programmes de dépistage avant de passer, bien sûr, par la prévention, même si on sait que ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, le message, c'est plutôt un message d'espoir.
Concrètement, on peut dire parler à votre infectiologue.
Tout à fait, la moindre question. Alors, bien sûr, maintenant, les associations sont de mieux en mieux informées. Beaucoup d'associations ont des outils à disposition, des plaquettes d'informations, des livrets même complets, des sites internet avec des pages complètes. Il y a il y a un site internet Cancer Vie dédié aux patients. Il y a un livret d'information aussi pour les patients qui est disponible en téléchargement et en papier. Donc il y a beaucoup de moyens d'être informés. Donc déjà aussi les associations de patients peuvent être un vrai relais. Effectivement, au moindre symptôme, il faut interroger son médecin traitant ou infectiologue. Bien sûr, oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup à Marianne Véry du Réseau national Cancer Vie. À la prochaine fois pour d'autres informations.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Vivre avec le VIH, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser nous des commentaires sur nos podcasts et des étoiles si vous avez aimé cette émission dédiée au cancer et le VIH. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.